France Inter, il est 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 19 mars, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la panoplie du gouvernement pour lutter contre les casseurs, interdiction de manifester dans certains secteurs, utilisation de drones ou de marqueurs chimiques, nomination d'un nouveau préfet de police à Paris, premier résultat attendu dès samedi prochain. On en parle à 8h20 avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Et le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Entre Gilets jaunes et Grand Débat, la CGT et FO tentent de faire entendre leur voix avec une journée de mobilisation dans le public et dans le privé. Quand Alice au Pays des Merveilles inspire les députés britanniques toujours empêtrés dans les discussions sur le Brexit. Des ateliers de fraternité pour apprendre aux enfants le respect et la tolérance. Et puis Florent Manaudou replonge. Après 3 ans loin des bassins, le nageur veut revenir pour les JO de 2020.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
Qui recevez-vous à 7h50?
Il demande la dissolution des groupuscules d'extrême gauche. Ils n'ont pas voté la loi anti-casseurs. Mais que pense-t-il des annonces sécuritaires du Premier ministre hier? Parole ce matin au Rassemblement National. Sébastien Chenu, député RN du Nord et porte-parole du parti de Marine Le Pen, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa.
France Inter.
Des violences incompréhensibles de factieux que le peuple français n'accepte pas. Visage fermé, ton sec, le Premier ministre hier soir a détaillé les mesures prises par le gouvernement pour éviter de nouvelles violences en marge des manifestations des Gilets jaunes. Édouard Philippe qui est également revenu sur les erreurs commises samedi dernier.
Une forme de consigne a été passée pour que ne soient pas utilisés les LBD ou pour qu'ils soient utilisés dans des conditions qui ne sont pas celles que nous avions définies. On a constaté beaucoup moins de tirs, beaucoup moins de capacité de projection de nos forces de l'ordre, beaucoup moins de mobilité et en effet des cartouches qui manifestement ne correspondaient pas à celles qui avaient été utilisées lors des premiers samedis où nous avions changé la stratégie.
Et ça, c'était pas une consigne du gouvernement ?
Ça n'était pas une consigne du gouvernement. Les policiers que j'ai croisés sur les Champs-Élysées m'ont dit que le niveau de violence auquel ils avaient été confrontés ce samedi était encore supérieur à ce qu'ils avaient constaté le 1er décembre. Pour répondre à cela, il faut des mesures fortes. C'est celles que j'ai annoncées, c'est celles que nous allons mettre en œuvre. Ça suffit. Il est certain que si nous avons une stratégie qui permet aux forces de l'ordre d'être plus mobiles, d'être plus dynamiques, d'être plus fermes, il y a plus de risques. Jusqu'à présent, nous avons voulu faire très attention, et nous voulons toujours faire très attention aux débordements, aux accidents, à la sécurité des personnes. Mais nous constatons que le déchaînement de violence justifie une réponse ferme. Je l'assume.
Édouard Philippe, hier soir sur France 2, une réponse ferme donc, qui passe par des interdictions de manifester dans certains quartiers si la présence de casseurs est constatée. Mais la mesure la plus symbolique, c'est le limogeage du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui sera remplacé dès cette semaine par l'actuel préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. Une annonce, Emmanuel Lequerre, plutôt bien accueillie.
On va enfin arrêter de faire n'importe quoi, raconte soulagé à un officier de gendarmerie habitué des allers-retours dans la capitale. Avec ses camarades, il ne comprenait plus ses ordres venus de la préfecture de Paris, toujours les mêmes consignes. Jamais de manœuvre innovante en fonction de qui était en face, avec des stratégies à chaque fois défaillantes. Jusque dans les fréquences radio différentes selon les unités. En clair, il est impossible de lutter, dit-il, efficacement dans ces moments de chaos face à des activistes déjà bien connus à Notre-Dame-des-Landes ou encore à Bure. Sans parler des sommations souvent inexistantes, sans aucun moyen moderne pour se faire entendre. Chez les CRS, ces critiques étaient globalement partagées ces dernières semaines. Tous attendent du nouveau préfet Didier Lallement qu'il crée une vraie cellule de commandement unifiée, cohérente avec toutes les forces engagées et que celles et ceux qui dirigent sur le terrain soient bien les donneurs d'ordre en bout de chaîne, y compris pour les sommations, avec une capacité d'initiative bien plus grande pour des interpellations plus rapides afin d'éviter que tout ne dégénère.
Du côté de la mairie de Paris, on prend acte des mesures annoncées, mais nous jugerons sur pièce, a déclaré l'adjointe à la sécurité. Les commerçants approuvent l'interdiction de manifester mais émettent des doutes sur la faisabilité. Les commerçants qui ont été reçus hier à Bercy, Bruno Le Maire s'est engagé à ce qu'aucun commerçant ne soit acculé à la faillite. Le dispositif d'étalement des charges sociales et fiscales a ainsi été prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril. Fermeté face aux casseurs, fermeté également du chef de l'État, fermeté affichée devant une soixantaine d'intellectuels invités à débattre hier soir à l'Élysée. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne modifierait pas la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Il a également écarté une hausse des droits de succession, comme l'expérimentation d'un revenu universel de base. Beaucoup de portes donc qui restent fermées, Laurence Perron.
Un président de la République poli, endurant, mais qui ne lâche rien face à des expressions parfois vives.
Autre intervention, Dominique Méda, économiste, sociologue.
On est dans une double urgence écologique et sociale. Faire, est-ce que vous êtes prêt maintenant? Alors on pourrait appeler ça un changement de cap. Est-ce que vous y êtes prêt?
On l'a essayé, y compris des gens avec qui vous n'étiez pas d'accord. Ça a été la réponse française de Nicolas Sarkozy à la crise de 2008-2010. Je regarde 10 ans après, on a plus de chômage que ceux qui ne l'ont pas fait et on a plus de déficit public. Je dis ça, no offense, c'était pas non plus la meilleure réponse.
Pas de changement de cap, pas de remise à plat de la fiscalité sur les institutions, bousculées par le spécialiste de l'islam Gilles Kepel. Il assume.
Ressentir les vibrations du terrain, je ne pense pas que ça passe par une reconstruction du cumul qui ne permet pas d'exercer au mieux les deux fonctions.
Enfin, sur la démocratie, il ferme la porte au RIC et assume sa verticalité.
Je ne crois pas que ce soit le référendum permanent. Tout ne se vaut pas. Ce qu'on m'a reproché parfois comme étant de la verticalité, c'était aussi simplement de reconnaître que tout ne se valait pas et que toutes les paroles ne se valent pas à tout moment sur tout sujet. Et donc, qu'on ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité.
Seule concession, Emmanuel Macron accorde au sociologue Jean Viard que la France est aujourd'hui territorialement fracturée. Il en est sûr, la solution est de retrouver un grand récit français.
Emmanuel Macron, qui a reconnu ne pas avoir en 18 mois réussi à donner des perspectives à une partie de la population. Des perspectives, quelles perspectives? Pour les 3641 personnes qui tous les soirs dorment dans les rues de Paris. Le bilan de la deuxième nuit de la solidarité qui recense les SDF dans la capitale a été publié hier soir. En un an, 600 personnes de plus se sont retrouvées à la rue.
Il est 7h07, Agnès, ce mardi 19 mars. C'est une journée de mobilisation dans la fonction publique et le secteur privé.
Qui s'annonce particulièrement suivi dans les écoles maternelles et primaires. La CGT, FO et la FSU appellent à la grève pour défendre le pouvoir d'achat des salariés et dénoncer le projet de réforme de la fonction publique qui doit notamment supprimer 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat. L'Institut Odoxa publie justement aujourd'hui son 5e baromètre des services publics pour la Banque française mutualiste France Inter et l'Obs. Le président d'Odoxa, Gaël Slimane, analyse les conclusions de cette enquête.
Les trois quarts des Français estiment que c'est un mouvement qui est justifié. Et évidemment, les salariés du secteur public, eux, sont 9 sur 10, 88% à estimer que ce mouvement est justifié. Mais en même temps, on a des Français qui aiment leur service public, mais qui leur font quelques critiques sur leur efficacité ou sur leur côté pas assez travailleur. Ils pensent aussi que les salariés du secteur public sont privilégiés. Et donc, ils peuvent accepter un certain nombre de mesures, les Français, qui seraient des mesures consistant à demander davantage d'efforts au secteur public. Ils sont 6 sur 10 à dire que ce serait légitime. Et comme on est en pleine période de grands débats et qu'il y a beaucoup d'attentes très fortes des Français sur le pouvoir d'achat, ça pourrait en faire les victimes collatérales, d'une certaine manière, des mesures assez coûteuses en matière de pouvoir d'achat qui ont été demandées dans les contributions.
Propos recueillis par Manuel Ruffez et le baromètre d'Oxa est à retrouver sur franceinter.fr. Et si vous preniez RER, vélo, métro, trottinette avec un même et unique titre de transport, c'est l'une des pistes de la loi sur les mobilités examinée à partir d'aujourd'hui et pour 2 semaines au Sénat. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30. J-10 avant la date officielle du Brexit et le Royaume-Uni est toujours plongé dans un épais brouillard après 2 échecs. La première ministre espère arriver à faire voter cette semaine au Parlement le texte de l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles, mais il lui manque encore environ 75 voix. Theresa May multiplie donc les promesses sans garantie de succès. Antoine Gignot est le correspondant de France Inter à Londres.
Première cible, les unionistes nord-irlandais. Theresa May leur promet une augmentation des subventions, sans résultat pour l'instant. La deuxième cible, évidemment, c'est le parti conservateur, avec les déclarations médiatiques de plusieurs hauts responsables, comme Esther McVie, ancienne ministre du Travail. « J'ai changé d'avis, dit-elle, je suis prête à soutenir la première ministre. » Mais l'homme qu'il faut surtout convaincre, c'est John Bercow, le président de la Chambre des communes, qui a voté pour rester dans l'Union européenne, a sorti, hier soir, sa botte secrète. Il s'appelle appuie sur une jurisprudence qui date de 1604 et il affirme que Theresa May n'a pas le droit d'organiser un nouveau vote sur un texte qui a déjà été rejeté. Il faut, dit-il, des changements substantiels. Stupeur et colère au gouvernement. Le ministre des prisons compare le président de l'Assemblée à Humpty Dumpty, le personnage à tête d'œuf, dédaigneux d'Alice au Pays des Merveilles. Ce Brexit version « je suis en retard, en retard, en retard » est décidément de plus en plus curieux. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a confirmé hier soir dans un communiqué qu'il prolongerait son quatrième mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril, le temps d'organiser une conférence nationale et de préparer un nouveau scrutin. Un communiqué qui ne convainc toujours pas les manifestants. Hier soir, ce sont les journalistes qui ont manifesté contre la censure. Aujourd'hui, les étudiants et les médecins ont prévu de descendre dans la rue. Apprendre le respect et la tolérance aux plus jeunes, difficile mais essentiel en ces temps troublés. Depuis 20 ans, la Ligue de l'enseignement organise une opération baptisée « Jouons la carte de la fraternité ». Les enfants sont invités à envoyer à des inconnus des messages de fraternité au dos de photos très éloquentes. Atelier suivi par Béatrice Duguay dans une classe de 6e du collège Albert Camus de Rosny-sous-Bois.
Au tableau, 6 photos inspirantes pour les élèves. Migration, pauvreté, écologie, liberté de pensée, discrimination, égalité des sexes. Il y a tout cela dans les images qui font écho à ce que vivent ces enfants d'une dizaine d'années.
Ma mère, quand elle travaille avec des personnes âgées, des fois, quand ils voient sa couleur, et ben, ils ne veulent pas se faire soigner par elle.
Quand je faisais de la boxe, y a une personne est rentrée dans la boxe et elle a commencé à crier sur le responsable en disant que c'est pas normal qu'il y ait des filles à la boxe parce qu'ils peuvent se blesser.
Ça, c'est un beau message à envoyer. Hein, mais on essaye de mettre des verbes.
Expérience concrète. Pour une destination plus abstraite, les élèves vont envoyer leur carte à des habitants de Rosny qu'ils ne connaissent pas, confirme Marie Hichelard de la Ligue de l'enseignement de Seine-Saint-Denis.
On peut offrir quelque chose comme ça à un inconnu, c'est une bouteille à la mer.
Si Fatim et Manon sont en pleine rédaction,
c'est très douloureux.
Bala, lui, a terminé sa lettre inspirée par une photo de femme musulmane en pleine répétition de guitare électrique.
Bonjour, habitants de Rosny-sous-Bois. Je voulais vous adresser cette lettre car cette femme vit maintenant de sa passion la guitare. Même si elle a vécu des moments difficiles, elle a réussi à s'en sortir. Même avec son voile, peux-tu nous aider à combattre ça ?
Solidarité, fraternité, tolérance.
C'était avec cette classe-là que j'avais envie de le faire, justement parce qu'il y avait des soucis particuliers.
Marie Drolon, l'enseignante qui fait travailler cette classe sur ce projet, voit ses élèves changer.
Un reportage signé Béatrice Duguay.
Je reviens et c'est Florent Manoudou qui parle.
Les yeux revolvers et les muscles saillants, le nageur affiche ses ambitions à la une de l'équipe après une pause de 3 ans pour jouer au hand et faire du cinéma. Le champion olympique du 50 mètres nage libre à Londres veut replonger pour gagner, bien sûr. Amaya Cazenave.
Ça fait de longs mois que je réfléchis. J'ai envie de reprendre la compétition. C'est par ces deux phrases que Florent Manoudou débute son entretien. Après une pause de 30 mois, le manque des bassins et de l'effort, l'envie d'être le meilleur ont donc pris le pas sur tout le reste. Il a vu, vécu autre chose, notamment comme joueur de handball à Aix-en-Provence, son autre passion. Mais ce n'était qu'une parenthèse. À 28 ans, il rêve de nouveau de médailles et dans son viseur, les JO de Tokyo en 2020. Travailler encore plus fort qu'avant, oui, mais pour gagner. Et il le dit. En natation, je m'entraîne pour arriver sur une finale des Jeux Olympiques, avoir le stress et détester la défaite. Détenteur de 7 titres mondiaux et de 3 médailles olympiques, le nageur français sait son défi immense. Alors pour atteindre son but, il va s'entraîner en Turquie avec le Britannique James Gibson, son ancien coach qui l'avait guidé vers le titre olympique à Londres.
Mais les retours au plus haut niveau sont difficiles. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi. Sa sœur, Laure Manoudou, médaillée en 2004, a ainsi tenté de revenir aux JO de Londres en 2011 sans succès.
Merci Agnès Soubiran. La route, Caroline Pommès, bonjour.
Bonjour.
Des ralentissements, Caroline, sur l'autoroute de Normandie.
Oui, sur l'autoroute A13, direction Rouen, à cause d'un accident entre un poids lourd et deux voitures, à hauteur de Mézières-sur-Seine, avant la barrière de péage du Buchelet. 2 voies sur 3 sont neutralisées. Il y a une vingtaine de minutes de ralentissement. Autre accident à vous signaler ce matin, au sud de l'île, sur l'A25, direction Dunkerque. 2 voies sont fermées.